Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous. Et nous partons d'abord en Grèce, où malgré l'hiver, 60 000 réfugiés sont toujours bloqués. La grande majorité d'entre eux est logée dans des camps officiels, mais dans la ville de Kilkis, près de la frontière macédonienne, une ONG mène un ambitieux projet de relogement dans des appartements. Simon Rico a pu rencontrer une de ces familles chanceuses, une famille syrienne.
Mara et Ahmat jouent sur leur ordinateur portable, allongés sur les grands tapis orientaux qui couvrent tout le sol du salon. À côté d'eux trône un sapin de Noël joliment décoré, offert par des amis grecs. Depuis le 25 novembre, les deux petits Syriens vivent enfin sous un toit, après avoir passé 9 mois dans les tentes du camp officiel de Kerso, à quelques kilomètres d'Idoménie. Nasser, leur père, se réjouit d'avoir à nouveau un vrai appartement.
J'ai l'impression d'être redevenu un être humain, d'être enfin redevenu un homme comme les autres. Je me sens en sécurité, je ressens de l'amour. Mes pensées vont à tous ceux qui se sont battus pour nous offrir ce toit.
Si Nasser, sa femme et leurs trois enfants sont aujourd'hui hébergés dans un immeuble de Kilkis, c'est grâce au projet de l'ONG locale Omnes. Engagée depuis 2014 dans le soutien aux réfugiés, la vingtaine de militants de l'association a monté The Housing Project, une initiative qui vise à terme à offrir un vrai logement à 1200 réfugiés des camps officiels du nord de la Grèce. Stéphanos Kamperis, la trentaine dynamique, est le coordinateur de l'ONG.
Ce projet alternatif qui est financé par les Nations Unies présente un double avantage. Il profite à la fois à l'économie locale et aux réfugiés qui peuvent vivre dans un logement normal. Avec le soutien de l'ONU, nous avons jusqu'à présent réussi à reloger 146 personnes dans 30 appartements ici dans la ville de Kilkis.
Comme dans tout le nord de la Grèce, de nombreux habitants de Kilkis sont des descendants de réfugiés. Leurs aïeux sont arrivés au moment de la chute de l'Empire ottoman dans les années 1910-1920. À cause de la guerre gréco-turque, ultime réplique de la Première Guerre mondiale, les deux ennemis avaient procédé à un échange de population. Plus d'un million de chrétiens furent chassés de Turquie pendant que 500 000 musulmans durent prendre le chemin inverse. À Kilkis, personne n'a oublié cette histoire qu'on appelle ici la Grande Catastrophe. L'ONG Omnes a d'ailleurs élu domicile dans un immeuble très symbolique.
La maison dans laquelle nous nous trouvons a été construite dans les années 1910 pendant ce que l'on pourrait appeler la crise grecque des réfugiés. En nous installant ici, nous voulions rappeler aux gens d'où nous venons. Cette maison accueille des familles de réfugiés depuis 1916. Je dirais donc que ça fait maintenant un siècle qu'elle voit passer des réfugiés et nous sommes plutôt fier de l'avoir.
Pour le moment, tous les retours sur The Housing Project sont positifs, que ce soit du côté des autorités municipales, des forces de l'ordre ou de la population qui se sent rassurée. Ce projet de relogement a en effet permis de faire chuter durablement le niveau d'insécurité lié à la précarité des réfugiés. Pour la petite Mara, 3 ans et demi, l'appartement de Kilkis est le premier logement en dur dont elle a le souvenir. Nasser et sa famille ont en effet dû fuir leur village proche de la frontière irakienne en mars 2015 à cause de l'État islamique.
Quand nous étions dans le camp, à chaque fois qu'elle voyait une maison, elle me demandait si c'était la nôtre. C'était vraiment son rêve d'habiter dans une vraie maison avec 4 murs et un toit. Quand nous sommes arrivés dans cet appartement, son bonheur était indescriptible, mais elle est toujours inquiète. Quand on va jouer dehors et qu'elle est fatiguée, elle me demande encore si on va devoir rentrer dormir dans notre tente.
Aujourd'hui, les 5 membres de la famille bénéficient d'un logement et d'une allocation de 450 euros par mois, financée par le Haut Commissariat aux réfugiés. Une situation plus confortable que celle qu'ils ont vécue dans le camp de Kerso, mais qui reste provisoire. Mohamed, 15 ans, un des fils de Nasser, s'est fait des amis depuis son arrivée en Grèce, mais son rêve, c'est de rejoindre au plus vite l'Allemagne, où se trouvent déjà son frère et sa sœur aînée.
J'espère ne pas rester ici et aller en Allemagne pour devenir médecin. Je veux avoir un meilleur avenir avec mes frères et sœurs, tous ensemble. La Grèce n'a pas d'argent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne pense pas qu'elle puisse m'offrir un bon avenir.
Je veux avoir un bon avenir.
Il est 18h30, la nuit est tombée sur le camp de Neakavala, à quelques kilomètres de Kilkis, en direction de l'autoroute qui file vers la Macédoine. Mandaté par le HCR, les salariés d'une petite entreprise locale distribuent le repas du soir. Après avoir passé le printemps et l'été dans de grandes tentes, 800 Syriens logent depuis octobre dans les préfabriqués installés pour l'hiver. Comme tous les réfugiés bloqués en Grèce, ils ont dû faire une demande de relocalisation dans un pays de l'Union européenne. La plupart espèrent obtenir rapidement l'asile dans un pays du Nord, comme Rawan, un Kurde de Damas âgé d'une vingtaine d'années.
On nous a emmenés en bus jusqu'à Alexandroupoli. Le voyage dure 7 ou 8 heures pour y aller. Là-bas, on nous a posé plusieurs questions. Pourquoi avez-vous quitté la Syrie? Quand êtes-vous parti? Combien de frères et sœurs avez-vous? Et où habite-t-il? On a dû attendre longtemps, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde.
Dans le nord de la Grèce, les conditions de vie des réfugiés se sont améliorées par rapport au printemps, quand la route des Balkans avait fermé. Idoménie s'était alors transformée en un immense champ de tentes et des camps officiels avaient dû ouvrir tout autour à la hâte, sans moyens ni organisation. La situation reste malgré tout délicate dans cette région pauvre, durement frappée par la crise économique. Sur un mur de Kilkis, un graffiti résume l'état d'esprit de la population. « Nos grands-parents étaient des réfugiés, nos parents des migrants économiques. Comment pourrions-nous aujourd'hui être racistes ?»
Vingt ans après la fin de la première guerre des Balkans, le travail de deuil n'a toujours pas pu être effectué en Bosnie. Sur les 100 000 morts et 30 000 disparus, 8 000 personnes sont toujours recherchées par leurs familles. Ces dernières attendent encore la localisation des charniers et l'identification des corps. Et c'est le reportage de Mercia Nezic.
Alma Čataković habite dans un petit village à côté de Vogošća, à quelques kilomètres de Sarajevo. En mai 1992, la capitale bosnienne est assiégée depuis un mois. Déjà, sa banlieue subit au même moment une campagne de nettoyage ethnique. Alma a 12 ans à l'époque, elle est emmenée en détention dans une caserne avec toute sa famille. Elle et sa mère sont ensuite expulsées vers les territoires contrôlés par les Bosniaques. Son père et son frère de 21 ans, eux, sont emmenés vers une destination inconnue avec 27 hommes du village. Depuis, plus de nouvelles, ils ont totalement disparu. Plus de 20 ans après, elle contient mal sa peine.
C'est très dur, je suis seule avec maman. On espère toujours, c'est ce qui reste, l'espoir. On espère les localiser, on espère qu'ils reposent en paix. Depuis toutes ces années, beaucoup de parents disparus sont morts sans savoir ce qui s'est passé pour leurs maris, leurs enfants, leurs pères.
Kada Hotic, on sait quelque chose. Cette habitante de Srebrenica, aujourd'hui réfugiée à Sarajevo, a perdu 56 membres de sa famille pendant la guerre. En 2013, elle a retrouvé les restes de son fils massacré en juillet 95 avec 8000 autres hommes et garçons bosniaques de Srebrenica.
C'est une obsession et une souffrance pour tous ceux qui comptent des disparus dans leur famille. Ils ne dorment plus la nuit, je le sais. On se demande, où est-il? Est-ce qu'il a été tué? Est-ce qu'il a été égorgé? Ou bien est-il vivant, qui sait, quelque part? Cette incertitude nous ronge. Quand on retrouve ne serait-ce qu'un ossement, le disparu retrouve une identité. La vérité éclate au grand jour. La famille peut enfin organiser l'inhumation. Elle s'apaise, arrête les recherches. On admet les faits, même s'ils sont terribles. C'est la fin.
Des familles de victimes sont parfois approchées par des personnes qui tentent de monnayer les informations sur l'emplacement des charniers. Mais le plus souvent, ce sont des indicateurs qui brisent l'omerta pour soulager leur conscience. Kada en a fait l'expérience. Elle était attablée dans un restaurant avec quelques femmes de l'association Les Mères de Srebrenica quand un inconnu les a approchées pour leur indiquer l'emplacement d'un charnier. À Vogošća aussi, une vingtaine de fosses communes ont été localisées grâce à des informateurs. Elles contenaient 297 corps. Eset Muračević fait partie d'une association de victimes de Vogošća.
Les gens qui nous donnent des informations sur l'emplacement des fosses communes ou des tombes individuelles, ce ne sont pas les exécutants. Ce sont des gens qui ont pu voir, même par hasard, ce qui se passait dans les territoires occupés. Des années après, ils ne pouvaient plus garder le secret. Nous respectons leur volonté de rester anonymes. Ils vivent au sein de communautés qui leur feraient subir des représailles si elles savaient. On garde donc leur nom secret.
Eset a été détenu, lui, dans un camp de Vogošća pendant 7 mois. Il a réussi à s'enfuir vers les positions tenues par l'armée bosnienne quand les milices serbes l'ont envoyé sur la ligne de front pour servir de bouclier humain. Seule la moitié des 800 hommes qui ont transité par ce camp ont survécu, comme lui. 62 personnes sont toujours portées disparues à Bogoscha. On retrouve rarement des corps complets. Ils ont été déplacés dans une tentative de dissimulation des crimes. On parle de fosses communes primaires, secondaires, tertiaires, comme nous l'explique Ada Hotic.
Ils déterraient ces tombes. Ils creusaient avec des machines, des bulldozers. Ils broyaient les os, ils les mélangeaient. On peut retrouver le corps d'une seule personne dans 5 ou 6 endroits différents. Ici, une main. Là, un morceau de jambe, une partie de la tête. Souvent, on enterre des corps incomplets, sans le torse, sans la tête. On ne nous rend jamais un corps entier.
L'État bosnien aggrave la situation de ses familles pour prétendre à la moindre prestation sociale ou à la retraite du conjoint disparu. Elles doivent produire un certificat de décès. Elles ne l'ont pas. Eset Muračević.
Nous savons que ces gens ont été tués et notre pays oblige les familles à les déclarer que leurs proches sont décédés d'une mort naturelle pour pouvoir percevoir une aide sociale qui leur permet de survivre. En plus, ça efface les traces du crime.
Lorsqu'ils sont retrouvés, les corps sont identifiés dans les laboratoires de la Commission internationale des personnes disparues, une organisation fondée par l'ancien président américain Bill Clinton. C'est le pôle mondial de la recherche en ce domaine. Les familles de victimes fournissent des échantillons sanguins. Les résultats sont comparés au profil ADN des restes retrouvés. 89% des victimes du génocide de Srebrenica ont été identifiées grâce à ce procédé. L'ICMP intervient dès qu'une fosse commune est découverte. Samira Krehic est l'une des responsables.
L'ICMP arrive sur les lieux avec ses anthropologues, ses experts, pour faire en sorte que l'exhumation des corps se fasse dans les règles, que les éléments des squelettes soient préservés. On est vigilant quant à la conservation des preuves aussi, comme des menottes par exemple. Plus tard, devant les tribunaux, lors de procès pour crimes de guerre, nous témoignons sur notre méthode d'identification des victimes.
L'identification des victimes rend plus difficile la négation des crimes. La reconnaissance des faits est indispensable pour une future réconciliation.
Et sachez que celui qu'on surnomme le boucher des Balkans, Ratko Mladic, est jugé en ce moment au TPI. Le procureur du tribunal de La Haye a réclamé la peine de prison à vie à l'encontre du milicien serbe accusé de génocide et crimes de guerre. Pas de verdict attendu avant un an.
Tous mes rêves y tournent autour de la mode. Tout le monde s'habille en jogging basket. Ils ont le style clonage.
J'aimerais être Obama.
Il a un charisme fou, il sait marcher. Il dégage quelque chose. François Hollande, quand il marche, pas trop ça.
Régis, l'un des adolescents qu'on peut retrouver dans Swagger. Swagger, c'est le titre de ce drôle d'objet cinématographique qui mêle fiction et documentaire sur des collégiens de la banlieue du 9-3. Le réalisateur Olivier Babinet explique d'abord ce parti pris.
Certainement parce que je suis un réalisateur de fiction. Et comme un jour on m'a proposé donc d'animer des ateliers de cinéma, d'apprendre à des collégiens des cités d'Aulnay et de Sevran à faire eux des films, après avoir travaillé 2 ans avec eux, je me suis dit il faut absolument que je fasse un film sur eux. Comme ils étaient tellement plus incroyables que tous les personnages de fiction que j'aurais pu imaginer dans ma chambre à Paris en fumant une cigarette, en regardant le plafond, je me suis dit il faut que je fasse un film directement sur eux. Ils ont quelque chose d'héroïque et je voulais les traiter comme des héros de cinéma, mais représenter comment ils sont réellement.
Oui, justement, comment vous les avez choisis, ces collégiens?
Moi, je voulais montrer le petit gros qui est choisi en dernier en sport et pour qui c'est un drame, la fille à lunettes qui se fait traiter d'un télo, tous ces personnages qu'on croise, qui sont bien loin des racailles et des... Oui, ils sont pas en train de brûler des voitures toute la journée, ils sont en train de faire leur devoir et d'espérer, comme tous les enfants, réussir dans la vie.
C'est vraiment pas les clichés, parce qu'il y a Naila, par exemple, qui veut devenir architecte, Régis, qui crève l'écran, qui rêve d'être styliste, il a déjà d'ailleurs un style très particulier, il adore les feux de l'amour aussi, il y a Paul, qui est d'origine indienne, toujours en costard-cravate, bien mis, très fort à la batterie, tous, ils ont des rêves, ils ont des ambitions.
Et moi, c'est certainement ça aussi qui m'a bouleversé, c'est de voir comment ils se fixent des objectifs, comment ils font tout pour éviter les mauvais pas. Et ils ont beaucoup de force de caractère et de dignité pour vouloir éviter ça. Et C'est plus difficile qu'ailleurs.
Le film n'occulte pas d'ailleurs la réalité des banlieues. Régis en parle notamment. On voit Paul aussi qui sort de son hall où il y a des gamins affalés dans un canapé et qu'on imagine des guetteurs ou des dealers. Donc, mais il y a aussi autre chose.
Bah oui, j'ai voulu parler de tout, mais c'est à sa juste place. On va toujours s'intéresser au gros plan des guetteurs et les trafics. Mais autour, il y a des mamans qui pique-niquent, il y a des petites filles qui font de la trottinette, il y a des perruches qui nichent dans les arbres parce qu'elles se sont échappées d'un container de l'aéroport le plus proche dans les années 80. Il y a des lapins qui nichent dans les forêts du collège. C'est tout ça une cité. Il y a celui qui rêve de devenir styliste. Et moi, j'ai voulu brosser un portrait où il y aurait, pour réparer un petit peu les choses, quoi.
C'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces images oniriques. Là, on parlait des lapins dans la cour qui mangent des feuilles. Il y a ce chameau aussi extraordinaire en plein milieu. Et puis les séances de cauchemar aussi que fait notamment Aïssatou, donc espèce de chouette qui fonce sur elle quand elle est dans son lit. Ou alors plus tard les drones qui ont l'air de surveiller la cité.
Oui, c'est un âge où on a des peurs nocturnes, où on a des grandes angoisses quand la nuit tombe. On fait des cauchemars, des fois des cauchemars éveillés quand on a de la fièvre. Donc, comme ce sont des enfants, je voulais qu'il y ait cette dimension-là. Et puis aussi, il y a une menace qui plane sur eux. Moi, c'est ce qui m'a bouleversé, c'est de voir ces enfants pleins d'espoir et de se dire que j'ai peur pour eux, j'ai envie qu'ils y arrivent, mais je sais que c'est beaucoup plus difficile qu'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, ces enfants qui assènent quand même quelques vérités avec leurs mots. Hein. Plusieurs disent qu'ils n'ont jamais vu de blanc, finalement. Il y a même, je crois, Stan qui dit « mais je ne sais même pas si on serait capable de vivre avec eux ». Ou encore Naila, la future architecte, hein, qui dit « mais les architectes qui ont bâti ces cités, de toute façon, ils n'habitent pas dedans ».
À propos de ne pas vivre avec les blancs, puisque c'est Stan qui dit ça dans le film, elle dit ça, on retient souvent sa parole, mais finalement, le film montre des individus qui ont des points de vue différents. Et Astan a la parole la plus dure, mais les autres pensent des choses très différentes de ça.
Ils sont beaucoup. Notamment Régis,
qui dit qu'il considère les Blancs comme des personnes normales et qui a envie de vivre place de la Madeleine. Ils sont tous très fiers d'être français.
Alors, comment les collégiens ont accepté de répondre? Parce qu'ils répondent à tout, en fait, hein. L'amour, l'amitié, la religion, la vie dans le collège, la peur de pas être accepté par l'autre, le fait d'être un bolos ou le fait d'être populaire.
Bah, c'est un peu mystérieux. Au Maroc, j'ai montré le film au Maroc, il y a des jeunes qui ont dit oui, qu'ils avaient beaucoup aimé le film pour sa pudeur. Et c'est vrai qu'en face, je leur parlais de mon adolescent, de mon enfant, de ma famille. Donc il y avait une vraie discussion, on échangeait des points de vue. Après, j'en connaissais certains très bien. Donc eux, ils m'ont fait confiance les yeux fermés. Mais d'autres, je les connaissais peu. Comme Naila, par exemple, je l'avais vue une fois dans ma vie.
Il y a une autre gamine, Aïssatou, qui est assez incroyable, qui arrive même pas à dire son nom, qui a l'impression d'être un fantôme, en fait, qui traverse presque sa vie.
On a tous croisé quelqu'un comme ça au collège, dont on se moque, qui dit rien, qui est habillé couleur muraille. Tout d'un coup, Aïssatou, elle est le porte-parole de tous les exclus, et elle met des mots là-dessus qui sont vraiment totalement bouleversants. Et par moments, elle a beaucoup plus de lucidité que tous les autres. Elle est différente, quoi. Elle a quelque chose de différent parce qu'elle dit qu'elle oublie tout.
Comment le film a été pris? Parce que je sais que vous parcourez un peu la France en ce moment. Comment les autres enfants ont pu le prendre? Vous avez pu en rencontrer un certain nombre.
Et ce que je mesurais pas, c'est que ça libère beaucoup la parole avec les jeunes des cités, parce que je fais beaucoup de débats. Et puis, ça provoque des larmes, des gens de 50 ans qui ont grandi en cité, qui disent rien n'a changé, qui remercient les enfants pour leur courage, d'avoir mis des mots dessus. Ça fait réfléchir sur l'identité, ça met des mots, les noirs, les blancs, les arabes, sans filtre, et ils sont tous fiers d'être français. Par contre, on voit que le mot français, des fois, glisse à blanc, parce que, effectivement, les blancs, il y en a très peu. Quoi. Il y a des blancs, en fait, mais c'est des Russes ou des Polonais. Ils disent, nous, on est français, et puis il y a les Français français.
En conclusion, on peut dire que bon, c'est un film qui est pas tout à fait comme un documentaire qu'on fait en général sur les banlieues, qui donne de l'espoir, qui est très rêveur également.
Je suis quelqu'un d'assez rêveur. J'aime bien quand on décolle un peu de la réalité aussi au cinéma en général. Après, c'est un âge aussi où on rêve beaucoup. Et effectivement, il y a la musique de Jean-Benoît Dunkel du groupe R et qui a fait une BO vraiment magnifique qui, pour moi, capte justement la fragilité de l'adolescence. Ça enveloppe le film, mais on est plus sur le ressenti, la profondeur des sentiments.
Le réalisateur Olivier Babinet, et on se quitte sur un extrait aérien justement de la bande originale du film Swagger. À la réalisation, il y avait Françoise Grelot. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Dans quelques instants, les infos.
Les grandes voix d'Afrique.